15h, 16h, sans rendez-vous sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Bonjour et bienvenue dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être, c'est tous les jours de 15h à 16h. Il est à mes côtés tous les jours lui aussi, le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mélanie.
Alors au sommaire aujourd'hui, notre grand dossier sera consacré aux ados, ou plutôt aux relations parfois compliquées avec eux, pour les parents qui en ont un ou plusieurs à la maison. Dans cette émission, on va vous donner plein de conseils pratiques pour traverser la période des portes qui claquent, parfois entre 12 et 17 ans. Et tous ces conseils, c'est notre invitée, grande spécialiste du sujet, qui va nous les dispenser. Nous recevrons la psychothérapeute Isabelle Filioza. Le docteur Jimmy Mohamed, lui, nous livrera son bon conseil du jour. Aujourd'hui, il va nous parler d'une étude qui vient de sortir et qui l'a passionné. Elle montre qu'il serait possible de lutter contre les surinfections bactériennes lors de la grippe grâce au microbiote, à notre flore intestinale. Ensuite, dans notre chronique Les maux du quotidien, on va parler d'une maladie qui n'a pas fait de cas de personnes contaminées sur notre sol depuis 1924, mais qui est responsable de dizaines de milliers de morts dans le monde. On fera le point sur la rage. Enfin, vers 15h50, ce sera la chronique sexo de l'émission avec Catherine Blanc, notre sexologue. Aujourd'hui, elle répondra à la question d'un jeune homme qui ne comprend pas pourquoi sa petite amie ne veut jamais avoir de rapport sexuel chez lui, dans son lit. Et tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, nous le faisons depuis le début de la semaine, un point sur le coronavirus. La situation épidémique en France est toujours en phase ascendante. Le nombre de patients infectés ne cesse d'augmenter chaque jour. Et aujourd'hui, Jimmy, vous avez eu envie de pousser un petit coup de gueule, entre guillemets, en tout cas, de relativiser un peu ce qui se passe en ce moment, car finalement, vous trouvez qu'on en fait trop. Tous les jours, on donne les chiffres des nouveaux cas et vous dites, on devrait aussi donner les chiffres de l'épidémie de grippe. Ça permettrait de relativiser.
Oui, vous avez raison. On a eu cette semaine, comme toutes les semaines, même si finalement on ne communique pas tellement dessus, le bilan chiffré de l'épidémie de grippe saisonnière actuelle. Et on va vous parler uniquement des cas graves, ceux qui ont été admis en réanimation cet hiver. En tout, 744 personnes ont été admises en réanimation depuis le mois de novembre. 531 épisodes de cas groupés d'infections respiratoires aiguës ont été signalés en collectivité de personnes âgées, dans les EHPAD et dans les maisons de retraite.
Et le problème, c'est que ça, eh bien, on n'en parle pas tellement, en fait.
Et oui, parce que finalement, la grippe, elle ne fait pas peur. On vit avec et on a l'impression qu'elle n'est pas grave. Et on oublie qu'elle tue. Elle tue chaque année ou elle fragilise les populations. Et elle a un vrai impact qu'on a tendance à négliger. Et effectivement, on peut comprendre que ce coronavirus angoisse les gens car on ne le connaît pas. Néanmoins, le nombre de passages aux urgences en France pour la grippe ou un syndrome grippal a été de 6100. Personne, juste la semaine dernière.
Ah oui, 6100. Alors, c'est-à-dire qu'on se dit le coronavirus, c'est la folie en ce moment, mais la semaine dernière, 6100 personnes sont passées en France aux urgences pour la grippe.
Exactement. Et si on prend sur le plan national, uniquement pour la semaine dernière, 724 personnes ont été hospitalisées, essentiellement des personnes plutôt fragiles, c'est-à-dire plus de 75 ans ou moins de 5 ans. Et donc, on se rend compte que finalement, sur une semaine, on a nettement plus mobilisé le système de santé français que durant tout l'épisode de coronavirus qu'on connaît actuellement.
Et vous disiez que depuis novembre, donc, plus de 700 personnes ont fini en réanimation à cause de la grippe et certains sont même décédés. Dans quelle proportion ?
Alors, donc, depuis le 4 novembre 2019, pour être précis, 744 cas graves de grippe ont été signalés, 72 sont décédés. 10 enfants de moins de 15 ans, 30 qui ont entre 15 et 64 ans et 32 qui ont plus de 65 ans. Donc, on se rend compte que des décès du coronavirus, on en a, mais qu'il faut peut-être relativiser. Au vu de ce qu'on connaît actuellement, la grippe, elle est là chaque année. Cette année, elle est un peu même moins contagieuse et le pic est moins important que les années précédentes. Heureusement, elle est bientôt sur la fin, mais peut-être qu'il faut arrêter cette psychose. D'autant plus qu'on ne vole pas de gel hydroalcoolique, on ne vole pas de masque, on ne met pas...
Oui, parce que l'épidémie de grippe, chaque année, il y en a une. Chaque année, il y a des décès, des hospitalisations, mais il n'y a jamais ces mouvements de panique.
Et non, et on ne fait pas de réserve dans les supermarchés, on ne dévalise pas les gens, on ne vole pas des voitures d'infirmières.
Parce que ça a été fait, c'est vrai.
Essayons un petit peu de rester raisonnable. Et surtout, lavez-vous les mains, c'est la mesure d'hygiène qu'on doit tous vous recommander.
Merci beaucoup, Jimmy, pour cette mise au point, mise en perspective, je dirais, nécessaire en cette période. Bon, à présent, on va reprendre nos bonnes habitudes et répondre à une question d'auditeur classique qui n'a rien à voir avec le coronavirus. On écoute la question de Maëlle.
Bonjour Mélanie, bonjour docteur Mohamed. Alors voilà, je me pose une petite question. Est-ce qu'on peut vraiment rester les yeux bloqués en louchant ? Comme moi, on me l'a dit toute mon enfance, du coup je me posais la question. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que voilà, si on louche, on reste les yeux bloqués ? Merci beaucoup.
Alors, pour répondre à Maëlle de façon précise, on a préféré interroger un spécialiste des yeux, l'ophtalmologue Damien Gatinel. On écoute sa réponse.
Oui, alors c'est une croyance populaire que j'avais entendue moi-même enfant. On me recommandait de ne pas loucher parce qu'en cas de coup de vent, je pouvais rester comme cela. Non, c'est bien sûr une croyance. Les muscles oculaires peuvent être contrôlés pour loucher en convergence, c'est-à-dire les yeux regardent vers l'intérieur, vers le nez. On peut tenir comme ça quelques secondes ou quelques dizaines de secondes, mais au bout d'un moment, c'est une position qui va être vite fatigante et les yeux vont redevenir absolument parallèles, qu'il y ait coup de vent ou que la météo soit parfaitement calme.
Allez, voilà pour la réponse du docteur Gatinel. Alors si vous aussi, comme Maëlle, qu'on vient d'entendre, vous voulez nous laisser vos questions santé, bien-être au 39-21, 50 centimes d'euros la minute, surtout n'hésitez pas, nous y répondrons au plus vite.
Europe 1.
Dans un instant, le docteur Jimmy Mohamed va vous donner son bon conseil du jour. Aujourd'hui, il va nous parler d'une étude passionnante qui montre qu'il serait possible de lutter contre les surinfections bactériennes lors de la grippe grâce au microbiote, grâce à notre flore intestinale. Et puis, on accueillera aussi notre invité du jour, la psychothérapeute Isabelle Filioza, qui va nous aider à passer la période parfois délicate chez nos ados entre 12 et 17 ans, sans trop de portes qui claquent. A tout de suite sur Europe 1.
Mélanie Gomez sur Europe 1. Europe 1. Sans rendez-vous. Mélanie Gomez.
Heureuse de vous retrouver dans Sans rendez-vous, votre émission santé et bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour jusqu'à 16h. Alors pour le moment, c'est le moment du bon conseil du docteur Jimmy Mohamed. Aujourd'hui, Jimmy, vous allez nous parler d'une étude assez incroyable. Il serait possible de lutter contre les surinfections bactériennes qui sont causées par la grippe grâce au microbiote. Alors, on est en pleine période d'épidémie de grippe. On l'a dit, c'est presque la fin, mais il y a beaucoup encore de cas. On en a déjà parlé d'ailleurs il y a quelques minutes. Hein. Pouvez-vous nous rappeler quelles sont finalement les complications les plus fréquentes de la grippe ?
Alors, les complications les plus fréquentes sont essentiellement les décompensations respiratoires chez des patients qui seraient BPCO, les bronchitiques chroniques, les asthmatiques, ou encore, et c'est ce qui va nous intéresser dans cette étude, on va vous parler des pneumonies, en tout cas des surinfections bactériennes liées à la grippe.
D'accord, alors on trépigne d'impatience parce que je sais, vous me l'avez dit en arrivant, cette étude vous a passionné. Mais c'est quoi cette étude alors ?
Alors c'est vrai que alors c'est la crème de la crème. L'Université de Lille, l'INSERM, Pasteur, wow. Le CNRS, là vraiment il y a une...
C'est du lourd. C'est du lourd.
C'est du très très lourd et ils ont raison de communiquer, c'est très important. Lorsque vous avez la grippe, on mange un peu moins de façon spontanée. Cette réduction alimentaire modifie de façon transitoire la composition et l'activité métabolique du microbiote intestinal, c'est-à-dire de votre flore digestive. De plus, pendant la grippe, on produit un peu moins d'acides gras à chaîne courte par les bactéries du microbiote à ce moment-là. Ça a une importance parce que, et la découverte, elle est là, ces acides gras favorisent à distance, et ce qui est assez incroyable, l'activité bactéricide des macrophages qui sont présents dans les poumons. Ce qui veut donc dire que ce que vous avez dans votre tube digestif, normalement, on fabrique
de façon naturelle.
On
a tous des bactéries dans le tube digestif.
Des acides gras qui vont lutter à distance dans votre poumon pour faire que vous tombez moins malade. Ah. Et ben quand vous avez la grippe, bizarrement, vous produisez moins ces acides gras. Et donc quand vous produisez moins ces acides gras, et ben vous faites des surinfections, les surinfections pulmonaires aux pneumocoques responsables de la pneumonie, notamment pendant la grippe. Donc ce deuxième cerveau, eh bien, il existe vraiment, c'est ce microbiote intestinal, car à distance, il y a un impact sur les surinfections dans les poumons.
Dès que vous parlez de microbiote, vous avez les yeux qui pétillent, c'est incroyable. Je sais que ça vous passionne, ces bactéries, dans notre bidon, comme on dit. Alors, c'est assez incroyable, hein, tout ce que vous venez de nous expliquer. Mais du coup, est-ce qu'on a, c'est bien beau de le découvrir, est-ce qu'on a une piste qui pourrait changer ce microbiote pendant la grippe ?
Et ça, c'est aussi c'est incroyable, il faut saluer la performance des chercheurs français. Ils ont d'ailleurs, et les chercheuses françaises, ils ont par ailleurs démontré que cette sensibilité à la surinfection bactérienne, elle peut être corrigé par un traitement à l'acétate. L'acétate, c'est un des principaux acides gras à chaîne courte, justement produits par le microbiote et qui sont en quantité plus faible lorsque vous avez la grippe. À terme, il serait donc possible d'éviter certaines complications graves de la grippe simplement grâce à votre microbiote.
Je vous sens surexcité. Alors Jimmy, on rappelle qu'il existe quand même un moyen efficace de prévention contre la vaccination, enfin contre la grippe, c'est la vaccination.
Exactement,
hein.
La vaccination diminue d'environ 80% la morbidité chez les adultes en bonne santé. Alors il faut être honnête, elle est un peu moins efficace chez les personnes âgées. Néanmoins, elle abaisse tout de même la mortalité de 70 à 80% dans cette population fragile. Et évidemment, chaque année, le virus change et donc il faut adapter le vaccin au virus chaque année. Il faut rappeler aussi que la couverture vaccinale est plutôt faible en France, un chiffre qui était de 51% seulement chez les plus de 65 ans l'année dernière.
Oui, c'est passé, hein.
Plus de 65 ans sont la population cible et une étude montrait que chez les femmes enceintes qui, elles aussi, sont concernées par les complications graves de la grippe et qui s'inquiètent, à juste titre ou pas, du coronavirus, n'étaient vaccinées qu'à hauteur de 7%.
Ouais, c'est pas assez du tout.
C'est pour dire qu'il y a énormément de travail à faire de pédagogie pour la grippe et puis peut-être pour d'autres virus.
Merci beaucoup, docteur Jimmy Mohamed, pour cet éclairage. Et donc, tout de suite, nous passons à notre dossier du jour.
Il y a la surboom de samedi.
Quel surboom ?
Boom, pas surboom.
C'est chez qui ? Un mec, tu connais pas.
Enfin, comment il s'appelle ?
Raoul.
Raoul, Raoul comment ?
Mais j'en sais rien, qu'est-ce que ça peut faire ?
Enfin, t'as l'adresse, le téléphone ?
Non, tout le monde y va, je me débrouillerai.
C'était la boum. Alors Jimmy, vous l'avez pas vu, je crois. Bah, c'est vraiment bien dommage.
Des petits extraits par-ci par-là, mais je crois que je ne suis pas le seul.
D'accord. Alors justement, on accueille notre invitée du jour. C'est donc la psychothérapeute Isabelle Fidioza. Elle est l'auteure de nombreux livres, mais en rapport avec notre sujet du jour, je vous en conseille un. Son titre, c'est « On ne se comprend plus » aux éditions J.C. Lattès.
15h, 16h, sans rendez-vous sur Europe 1.
Bonjour Isabelle Fidioza.
Bonjour Mélanie.
Ravie de vous recevoir sur ce plateau à nouveau. C'est la deuxième fois qu'on vous reçoit. On est ravis. Alors avant de rentrer dans des situations concrètes de conflits qu'on peut y avoir, qu'on peut vivre parfois au quotidien entre parents et ados, vous allez peut-être nous aider à nous apaiser, on va dire. Et vous dites, je crois que dans l'adolescence, ce qu'il faut comprendre quand on est parent, c'est que finalement dans le cerveau de nos adolescents, il se passe quelque chose de dingue. À ce moment-là, entre 12 et 17 ans, c'est l'ébullition.
Ah oui, tout à fait Mélanie. C'est complètement une transformation profonde. Avant, on croyait que le cerveau grandissait progressivement et que donc, on avait de plus en plus d'intelligence, de responsabilité, de capacité, etc. On pensait que c'était une croissance assez linéaire, de tout petit jusqu'à adulte. Eh bien, en réalité, pas du tout. Effectivement, il y a une croissance neuronale phénoménale depuis tout petit jusque vers 11 ans. Et puis là, c'est comme s'il y avait tellement de petits neurones dans tous les sens, des tonnes de réseaux, il y a toutes sortes de chemins. Et c'est comme si le cerveau se disait « oulala, c'est un peu compliqué cette histoire, on va couper quelques branches, on va réorganiser tout ça, ils font des travaux ». Donc, des travaux pour créer des autoroutes, créer des neurones, en fait, des myélinisations, c'est-à-dire qu'il va y avoir des graines, une gaine de myéline qui va s'entourer autour des neurones pour faciliter le transfert de l'information. Donc, l'information va aller beaucoup plus rapidement, enfin, pas tout de suite. Pour l'instant, ce sont les travaux. Donc, oui, une grosse partie du cerveau est en remaniement profond.
Et ça, c'est très important de le comprendre. Pour comprendre ce qui va suivre, on va parler des interactions juste après. Isabelle Fidioza, on ne fait que commencer cet entretien, surtout vous restez avec nous.
Europe 1.
Dans un instant, vous voulez savoir comment mieux gérer les portes qui claquent à la maison avec votre ado. Lui, il a l'impression de plus du tout avoir besoin de vous, mais c'est tout le contraire. Eh bien, on va vous donner quelques clés pour l'approcher plus sereinement. Arrêtez de marcher sur des œufs avec votre ado. A tout de suite sur Europe 1.
Mélanie Gomez sur Europe 1. Europe 1, Mélanie Gomez.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé Bien-être, une émission sans rendez-vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. À mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed et notre invitée, la psychothérapeute Isabelle Fidioza. Alors Isabelle, vous nous avez expliqué tout à l'heure à quel point le cerveau d'un adolescent il est en ébullition. Mais du coup, est-ce qu'un parent, il peut quand même faire confiance à un ado qui vit ce chamboulement cérébral ? Parce qu'on se dit, s'il n'est pas très stable là-dedans, là-haut, peut-être qu'on ne peut pas vraiment lui faire confiance, quoi.
Mais c'est ça, on peut vraiment lui faire confiance tout à fait sur le fait qu'il va probablement faire
une grosse bêtise.
Voilà. C'est-à-dire que faut faire confiance, c'est un peu l'abandonner à ses impulsions. On a plutôt à le coacher, à l'accompagner, à l'aider à réfléchir, à se préparer.
C'est ça, Jimmy.
Justement, dans votre livre, vous racontez une anecdote en voiture lorsque votre fils vous dit « Maman, je vois en 3D ».
À 15 ans, tout d'un coup, il vous dit ça, ça veut dire quoi ?
Ah oui, c'était surréaliste. J'étais en train de le conduire et en voiture et tout d'un coup, il me dit ça. Et puis, je dis « C'est-à-dire ? Parce que tu ne voyais pas comme ça avant. Enfin, je trouvais ça normal de voir en 3D. » Et puis, il me dit « Mais non, parce qu'avant... » Eh bien, je voyais finalement en 2D, je voyais les choses se dérouler les unes après les autres. Et maintenant, quand je vois une voiture, par exemple, devant nous, j'imagine en même temps ce qui se passe devant elle, sur les côtés, derrière. J'ai une vision grand angle. Et j'ai été vraiment impressionnée qu'il arrive à mettre des mots aussi justes sur ce que j'avais appris, moi, dans les études scientifiques, effectivement,
il arrivait à comprendre la complexité, en fait. C'est ça.
En fait, les zones associatives les zones pariétales associatives dans le cerveau se développent à ce moment-là, se myélinisent.
À 15 ans, c'est ça.
Et voilà, c'est, les associations se font, ce qui fait que du coup, le paysage prend d'autres formes. Mais c'est intéressant parce que nous, on ne mesure pas. On voit bien qu'il a les pieds qui grandissent, qu'il a les poils qui poussent.
Tout ce qui est physique, on le voit.
Voilà, mais on ne mesure pas à quel point, pour lui, à l'intérieur de sa tête, le monde change.
Jimmy ?
Comment on fait pour gérer les bêtises que l'adolescent va donc faire à cause de ce chamboulement neuronal? Donc c'est bien bon, mais concrètement,
là, qui ces impulsions, plus.
Voilà, on fait comment derrière nous, par exemple, pour essayer de limiter, on va dire, les dégâts?
Alors déjà, on ne va pas seulement faire derrière, on va surtout faire en amont. Avant, on maintient un maximum d'attachement parce que quand même, les ados ne sont pas idiots. Et donc, s'ils perçoivent l'attachement et s'ils ne sont pas projetés vers faire une bêtise parce qu'on aurait interdit, parce que le problème, c'est qu'il y a des parents qui croient que si je pose un interdit, si je mets des limites à un adolescent, du coup, il va se tenir correctement. Ben, c'est exactement le contraire, en fait.
Mais lui dire, si tu vas cette soirée, tu ne bois pas, on est d'accord, promets-moi que tu ne fumeras pas, ça ne sert à rien ?
Si, ça va faire qu'il va probablement fumer davantage et boire davantage.
Vous avez vu, on n'a pas la bonne
idée. Il y a un impact. Du coup, il a ça en tête. Mais, et surtout, si on lui donne un ordre, on lui demande quelque chose, il est piégé parce que du coup, il se dit, si je fais ce que maman ou papa me dit, eh bien, je suis le petit enfant de sa maman. Et donc non, il veut grandir, il veut être fier de lui.
Et si on ne veut pas qu'il fume, on ne veut pas qu'il boit, on fait quoi alors ?
Alors on muscle son cerveau, c'est-à-dire on va l'accompagner. On ne lui fait pas confiance en lui disant « j'ai confiance en toi, je sais que tu ne vas pas le faire ». Si on lui dit « bon, si ton copain Max te propose un verre d'alcool et une cigarette, qu'est-ce que tu fais ?» Évidemment qu'il va nous dire « oh, j'en prends pas, maman
!» Mais vous êtes bien ado.
on s'arrête là. Si on s'arrête là, c'est sûr qu'il va quand même le faire. Il n'a pas... Donc, on sait que le cerveau préfrontal, là où on prend les décisions, c'est en travaux. En travaux ne veut pas dire que c'est complètement bloqué. Donc, je vais muscler ce cerveau préfrontal. Donc, je lui dis « Ok, ton copain Max, il te propose un verre d'alcool. Donne-moi 10 possibilités. »
Ah, c'est génial.
Une possibilité. Ah oui, tu peux le voir. Mais, et on fait attention que parmi les 10, il y ait aussi « je bois cul sec ». Voilà, il faut aussi qu'il y ait les options négatives.
On lui dit « voilà, essaye de voir 10 possibilités, 10 possibilités de choses que tu pourrais lui répondre. »
Voilà. Donc, et ensuite, donc là, et puis on s'arrête là.
C'est tout.
Une fois que lui, il est en soirée, Max lui propose un verre, il a les 10 possibilités qui s'ouvrent dans sa tête. Donc, il est capable de réfléchir. Et comme il n'est pas idiot, de temps en temps, il va boire. Mais la plupart du temps, il va quand même prendre une option qui sera une option dans laquelle
plus
il
safe.
Se respecte. Oui, tout à fait.
Bon, c'est pas mal, c'est une bonne astuce, ça, Jimmy. Retenez, on a des enfants petits encore, mais ça peut nous servir
dans
pas longtemps. Merci beaucoup, Isabelle. Nous allons continuer cet entretien dans quelques minutes. On reste ensemble.
Europe 1.
Dans un instant, on va reprendre par étapes. En fait, l'adolescence, les prémices, ça peut commencer très tôt, dès 11 ans. Comment gérer, par exemple, ce préado qui veut plus jamais mettre son blouson alors qu'il fait 3 degrés dehors? Et après, vers 13, 14 ans, hein, ça se complique parfois encore. Il veut tout, tout de suite, et ça vous rend fou, vous, parents. On va vous aider avec des conseils très pratiques, c'est promis. Restez avec nous sur Europe 1.
Mélanie Gomez vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1.
De retour sur Europe 1 avec le docteur Jimmy Mohamed et notre invitée, c'est la psychothérapeute Isabelle Filioza. Alors Isabelle, l'adolescence, les prémices en tout cas, ça peut démarrer très tôt, à 11 ans, je l'ai dit tout à l'heure. En tout cas, on peut se retrouver donc face à un préado, je parle en connaissance de cause, j'en ai un de cet âge-là à la maison, qui tout d'un coup, pour nous, ben, il s'en fiche et il jure que par sa tribu. Par exemple, ils ont un truc qu'ils font beaucoup, je trouve, moi les enfants de 11 ans, ils veulent plus jamais s'habiller. Ils sont toujours à poil, ils veulent pas mettre de manteau. Enfin moi, c'est une guerre de tous les jours, ça c'est normal à 11 ans.
Oui, c'est naturel. Mais Mélanie, c'est pas seulement parce qu'il veut être comme sa tribu, c'est vrai aussi.
Et parce que quand je regarde ses copains, ils sont tous à poil, hein, effectivement, ils n'ont pas de manteau.
Mais ils ont aussi tous le même âge et donc tous un peu la même physiologie, le même métabolisme. Et c'est vrai que nous avons tendance, nous adultes, à projeter ce que nous ressentons. Or, notre métabolisme est bien ralenti par rapport au leur. Eux, ils ont encore beaucoup de ce qu'on appelle la graisse brune, et donc qui leur permet d'avoir chaud finalement. Ils n'ont pas du tout le même rapport.
Quand il me dit j'ai chaud, c'est qu'il a vraiment chaud.
Oui, probablement. Et s'il avait froid, eh bien, en plus, il court hein, probablement
tout
dans la cour.
Tout le temps, du foot, c'est ça. Donc, s'il ne met pas son manteau dans la cour,
général,
c'est pas grave.
De manière générale, si on regarde les footballeurs, ils ne sont pas avec le parka, le bonnet.
Donc, j'arrête de vous l'insister pour le le manteau alors.
On peut, là-dessus, vraiment, on peut leur faire confiance. Ils ne sont pas idiots. Mais c'est vrai que, par contre, ils vont vouloir tel t-shirt ou telle chaussure en fonction de ce que les autres demandent. Là, on peut négocier, les aider à voir comment ils peuvent se relier aux autres sans forcément être soumis aux critères sociaux.
Ouais, à 11-12 ans, c'est vrai que ça commence là. Ils veulent tous les mêmes baskets, par exemple.
Et oui, et ça, ce serait à l'école de gérer.
Est-ce qu'on doit répondre à ça ? Parce qu'on ne peut pas qu'ils soient non plus différents. Parce qu'il a dit, mais ils les ont tous, et moi je ne les ai pas. On fait quoi ?
On l'aide à réfléchir. Comment ça se fait ? Ben, qu'est-ce qui fait que tu as besoin d'avoir les mêmes chaussures pour te sentir appartenir au groupe ? Finalement, ça sert à quoi d'avoir les mêmes chaussures ? Eh bien tiens, regardons, pour quelles raisons est-ce que... regarde, l'équipe de foot, ils sont tous une même couleur. Oui, c'est pour dire qu'ils font partie de ce groupe. Donc on l'aide à réfléchir à la dimension même de la socialisation. Et donc on lui dit, c'est naturel et normal d'avoir envie d'être comme les autres pour sentir que tu fais partie d'eux, mais quelquefois, tu as aussi droit d'avoir ton individualité. Et c'est vraiment, l'identité, c'est une gestion entre qu'est-ce que je fais pour montrer que je fais partie du groupe et puis qu'est-ce que je fais pour affirmer qui je suis moi.
Jimmy ?
Et c'est grave si on cède et que finalement, il a les mêmes baskets que les autres. Une fois qu'on l'a fait réfléchir, est-ce que ça rend un enfant qui serait un peu mouton comme les autres, le fonctionnement normal, est-ce que ça fait un adulte peut-être un peu différent ou au contraire, bon, c'est pas si dramatique, on va dire, la lutte des baskets n'est peut-être pas...
Mais en fait, le problème, c'est l'idée de lutte et l'idée même de céder. Je suis pas trop pour céder quoi que ce soit, mais pour dire oui, pourquoi pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison non plus d'empêcher qu'il ait les mêmes baskets que les autres, juste pour le plaisir d'empêcher qu'il ait les mêmes baskets que les autres. C'est-à-dire que, mais on ne va pas être dans une dynamique de « je cède ». Sinon, on a une mauvaise estime de nous-mêmes en tant que parents. L'enfant a l'impression qu'il nous a fait céder. Mmh. Enfin non, sortons de ces jeux de pouvoir. Élever un enfant, c'est l'accompagner dans son développement. C'est pas jouer un jeu de pouvoir avec lui.
Et alors, les accompagner justement dans leur développement, dans la bienveillance, évidemment, parfois ça passe... moi, je sais que j'adore parler de lui en public, quand il fait des choses bien, dire qu'il a eu des bonnes notes,
ah ouais, mais lui,
ça.
Il aime
mais
pas.
Alors, il supporte plus ça. Non, mais avant, il était très content quand je racontais tout ce qu'il faisait de bien. Mais là, à 11-12 ans, ils ont plus du tout envie qu'on parle d'eux. Mais pourquoi même quand c'est pour dire du bien, c'est bizarre.
Eh ben oui, mais c'est chouette de l'avoir repéré, Mélanie, parce que voilà, nos enfants nous montrent les limites, là. Ils deviennent autres, ils deviennent des individus à part entière.
Arrête de raconter ma vie, il me dit.
Exactement.
Oui, mais sa vie, c'est un peu, il fait partie de la mienne aussi, non ?
Et oui, c'est une grande frustration, c'est sûr, de les voir grandir comme ça, voilà. Et oui, c'est comme
ça. Donc, on doit arrêter de parler d'eux quand ils se...
On doit, ben ça dépend. Est-ce qu'on désire Qu'est-ce que je désire faire ? En fait, ce que je veux réellement, c'est qu'il s'épanouisse. Et donc, je peux parler de lui quand il n'est pas là.
Allez, on va faire ça. Jimmy ?
On passe à 13 ans, l'âge où les hormones sexuelles commencent un peu à travailler les adolescents. Alors, c'est une période qui peut être un peu compliquée, d'autant plus que l'enfant, l'adolescent peut être un peu cyclothymique, hein, son humeur est un peu instable. Comment est-ce qu'on fait pour gérer ça ?
Mais déjà, on le mesure. On réalise que les comportements très brusques sont probablement liés aux hormones. Alors, ce n'est pas seulement lié aux hormones. C'est lié aux hormones, c'est sûr, plus à la modification du cerveau et à tout ce qui se passe et qui est difficile à gérer. C'est comme si le gamin, il se retrouve avec... il a une Ferrari, mais il n'a pas encore le permis de conduire, quoi. Donc, le moindre truc, il appuie un tout petit peu sur l'accélérateur, c'est parti. Et puis, tout d'un coup, bref, c'est un peu ça. Donc, notre job, c'est de lui apprendre à conduire. Donc, on est là, on coach, on accompagne. Quand c'est vraiment trop fort, on laisse, c'est pas la peine, c'est pas le moment d'intervenir.
On change de pièce.
Voilà.
Parce que le téléphone a tendance à être dans la surenchère. L'enfant qui se met à crier, on va crier plus fort que lui pour lui dire, écoute, c'est moi le...
Sauf que Jimmy, nous, on n'est pas le gamin. Nous, normalement, on est l'adulte, théoriquement. Oui. Voilà,
vous prenez des cours maintenant, c'est bien, Jimmy. Comme ça, vous serez pas...
C'est vrai, on peut essayer de vouloir asseoir son autorité par le cri et pas une relation de force sans agressivité.
Ça, ça sert à rien, on est d'accord ?
Non, ça sert à rien, mais c'est vrai qu'on a tendance à faire ça, malheureusement, parce que on est pris, on a l'impression que... Voilà,
et puis, des fois, ils nous disent des choses très dures, les ados. Alors, moi, j'en suis pas là du tout, je parle pas de moi, mais moi, j'ai déjà vu des adolescents dans des scènes avec des amis ou quoi, qui disent « Tu m'as jamais aimé !» Enfin, des trucs horribles. Non, mais c'est vrai, on le voit dans les films aussi, les ados peuvent être très difficiles. J'ai déjà vu des copines pleurer avec leurs enfants ados qui leur disent des choses très méchantes.
Elles pleurent parce qu'elles n'ont pas lu le livre. Parce qu'en fait, voilà. C'est tellement...
Votre livre, c'est On ne se comprend plus, chez les éditions JC Lattès, on le rappelle.
Voilà, parce que c'est tellement fréquent. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a dans le cerveau un élagage. Comme quand on élague un arbre, on coupe, mais pour élaguer, ben on reprend la branche. Donc l'enfant revient en contact avec des, toutes sortes de souvenirs, de choses qui étaient enfouies, mais il n'a pas évidemment la maîtrise, pas la compréhension de tout ce qui se passe. Mais des sentiments, des impressions du passé ressortent. Donc quand il dit « tu m'as jamais aimé », on saisit le truc au vol.
Et on dit quoi ?
Eh ben on lui dit « ah bon ? T'as eu l'impression de ça ? Raconte-moi. » Prenons un petit moment, tous les deux, parce que si tu le dis, c'est que tu as ce sentiment dans ton cœur. Et comme j'ai pas envie que tu aies ce sentiment dans ton cœur, alors dis-moi.
Parlons-en. Oui.
Et je pense que tu fais pas référence à ce que tu vis aujourd'hui. Peut-être que ça fait référence à ce mois que tu as passé à l'hôpital quand tu étais tout petit.
Ou quand ta petite sœur est née.
Voilà, tout à fait.
C'est souvent ça.
Et donc
ça,
c'est l'occasion de réparer des blessures anciennes.
Quand il y a la crise vraiment qui arrive très loin, où l'enfant nous dit quelque chose d'horrible, effectivement, il faut creuser, c'est pas... lié au moment, en fait. Hein, souvent,
voilà. Ouais. Soit c'est lié à l'élagage, soit c'est une demande d'aide. Parce qu'ils vont au lycée, ils vont au collège, et là, ils entendent toutes sortes de choses qui les blessent. Et quand un enfant est blessé par une insulte, par exemple, il garde l'insulte à l'intérieur, même s'il a entendu quelqu'un le dire à quelqu'un d'autre, ça lui a fermé, il ne sait pas quoi faire avec. Donc il le garde à l'intérieur, quand il voit sa mère, paf, il le jette sur sa mère. Mais donc c'est pour ça qu'il nous dit des trucs absolument horribles, mais qui n'ont rien à voir avec nous en réalité. C'est juste parce qu'il nous fait confiance, nous sommes la figure d'attachement, et donc il va nous dire à nous ce qu'il porte à l'intérieur sinon et qu'il garderait, qu'il lui ferait mal.
Jimmy ?
Certains adolescents se mettent à mentir, et puis surtout on s'en rend compte. Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'ils nous disent « j'étais à la bibliothèque » alors qu'en fait ils étaient en train de jouer au foot, ou au contraire « j'étais avec Max » alors qu'en fait pas du tout.
On a eu les parents de Max et ils n'étaient pas du tout chez Max.
Une fois qu'on les a pris en flagrant délit de mensonge, qu'est-ce qu'on fait ?
On peut leur demander pour quelles raisons ils éprouvent ce besoin de mentir, ce besoin de... Alors, le mot mentir, tout de suite, ça va déclencher des réactions. Donc,
c'est pas dire la vérité. Ah non, c'est pas dire tout à fait la vérité,
voilà,
c'est ça.
Voilà, dire qu'est-ce qui fait que tu ne me dis pas ce que tu as réellement fait alors que tu sais que probablement je vais le vivre. Le pic du mensonge, il est plutôt vers 9 ans. À 9 ans, les enfants explorent le mensonge parce que ça montre que... Oh, papa, maman, ils ne sont pas à l'intérieur de ma tête. Je peux exister, ils peuvent ne pas tout savoir. Donc, c'est une
génial.
Exploration comme ça.
Ça, c'est à 9 ans, le pic.
Voilà.
Jimmy, après... il est resté bloqué à 9 ans. Non
oui, c'est ça, je pense que voilà, malheureusement, voilà, toutes les étapes en fait, sont bloquées chez moi à 9 ans. Le mensonge, voilà.
Quelque part, c'est tout bloqué un peu chez moi.
Non, mais je plaisante, évidemment, Jimmy n'a pas de problème avec ça.
Donc, les adolescents, c'est un petit peu autre chose, peut-être, en plus de cette idée-là, mais il y a quand même encore cette idée-là, c'est qui je suis en dehors du regard de mes parents et comment est-ce que je peux devenir quelqu'un. Et donc, il y a tout un besoin, de la même manière qu'ils ferment leur porte à clé, ils ont besoin de fermer une partie de leur vie.
Ils ont envie qu'on ne sache pas des choses, en fait. C'est
voilà.
Ça. C'est pas tellement du mensonge, en fait. C'est ça.
C'est ça.
C'est une façon de s'autonomiser, en fait, de mentir un peu pour
tout
eux.
À fait. Ouais. Après, ils peuvent mentir parce qu'ils craignent des punitions. Ils craignent des... Voilà. Donc, évidemment, si on a une mauvaise relation avec ses enfants, si on est dans le conflit, si ça se passe mal, ils risquent de mentir pour ça.
Vous parlez de punitions, mais il y en a qui aiment les punitions, j'ai l'impression. Des garçons, souvent, on voit ça, qui, finalement, ça les rend un peu... Ça les rend caïds à l'école. J'ai été puni, ouais, parce que j'ai fait le mur, tout ça.
Exactement.
Il y en a qui aiment ça. Hein, ouais.
Exactement. Et des études ont été menées pour mesurer ça. Et effectivement, un adolescent de 15 ans, lorsqu'il est puni, il augmente sa cote de popularité, il double ce nombre de petites copines.
Mais
on
non.
peut les comprendre quoi. Donc voilà, il y a son statut social qui augmente,
ah oui.
Tout le monde l'admire, c'est ça, il fait le caïd, et malheureusement, et c'est là que nous sommes responsables, parce que nous les avons élevés dans une société dans laquelle le caïd est plus admiré, plus respecté, on lui montre toutes sortes de films où il faut faire le plus fort, enfin bref, voilà.
Jimmy.
Adolescence rime souvent avec crise du rangement. Lorsque c'est un peu l'apocalypse dans leur chambre, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on doit lutter contre ce bazar, alors qu'ils arrivent à vivre ou à survivre dans ce milieu hostile ? Ou est-ce qu'on doit, par exemple, moi ça me passe par la tête parfois, de jeter leurs affaires en disant « vu que c'est pas rangé, bah ça va à la poubelle ».
Alors on peut s'interroger sur pour quelles raisons ça nous exaspère autant, alors que très probablement, nous au même âge, on a fait pareil.
Jimmy, vous étiez très ordonné à l'adolescence.
Non, mais je ne suis toujours pas à 33 ans, donc je vais essayer de faire toutes les étapes. En fait, toutes les étapes là, c'est pour moi.
En fait, déjà, une première chose qui peut nous rassurer, c'est que, pourquoi est-ce qu'il ne range pas ? C'est, y a plusieurs choses qui se passent à ce moment-là. Déjà, quand on voit que c'est répandu dans la population d'un même âge, c'est que c'est probablement pas une pathologie, mais davantage quelque chose qui est inhérent à cette étape de développement. Donc, laisser les choses un petit peu partout, ça a plusieurs fonctions. Alors, la fonction très animale de laisser des traces.
Ah oui, quand même.
Voilà, donc les filles qui laissent la tasse de thé un peu partout, voilà, toutes les affaires.
Oui, parce que d'ailleurs, quand ils ne rangent pas, ce n'est pas que dans leur chambre. Des fois, ils en laissent traîner de partout dans la maison. Hein, oui.
Mais c'est l'époque du territoire, quoi. Donc, ils marquent leur territoire et ils mettent des trucs un peu partout. Donc, ils s'installent. L'autre chose, c'est que quand les choses sont sorties, elles sont disponibles, on les voit. Et du coup, on peut y réagir. Et c'est pour ça, en fait, que ça développe l'intelligence, surtout sur les plus petits aussi, parce qu'on a toutes les choses qui sont là. On les voit, on voit, on fait des liens entre les choses. Je vous rappelais tout à l'heure, j'ai dit que les zones associatives se développent. En fait, c'est ça. Les ados font beaucoup d'associations entre les choses. Et le fait de voir plein de trucs divers et variés mélangés, là, il y a une culotte, un disque, un poutrien,
etc. Moi, je
voudrais
qu'il y ait, là, il y a le livre de maths, là, il y a le cahier de français. Mais non, c'est plutôt souvent les culottes. Hein, mais...
Donc, tout ça, hop, ça fait des liens. Voilà, ça, ils sont en train d'organiser leur cerveau. Et ce qui est intéressant, c'est que s'ils vont dans un camp de je ne sais quoi, un truc
colo, ouais.
Ils vont avoir la médaille du rangement.
C'est vrai, c'est
donc,
vrai.
Donc, ce n'est pas qu'ils n'ont pas la capacité de ranger, c'est qu'il y a une fonction à cet apparent désordre. Ce qui est important, c'est qu'ils ne perdent pas leurs affaires. Est-ce que si je lui dis « Où est ta trousse rose ?», immédiatement, ils savent la trouver sous un tas de trucs ou pas. S'ils ne savent pas la trouver,
ça, c'est plus embêtant.
C'est plus embêtant, donc là, on va les aider. On va les aider dans les stratégies de rangement, etc. Mais s'ils savent, bon, c'est qu'ils maîtrisent le truc.
Merci beaucoup Isabelle Filiosa d'être venue sur notre plateau. Je rappelle le titre de votre livre pour ceux qui auraient envie d'en savoir encore plus. On ne se comprend plus aux éditions J.C. Lattès. Alors, on pourrait en parler des heures avec vous. On pourrait faire 10 émissions. Vous reviendrez bien sûr nous donner encore d'autres conseils pour mieux gérer nos ados. Encore une autre fois, merci encore.
Europe 1.
Dans un instant, notre chronique, les mots du quotidien. On va parler d'une maladie qui n'a pas fait de cas de personnes contaminées sur notre sol depuis 1924, mais qui est responsable de dizaines de milliers de morts dans le monde. On fera le point sur la rage. À tout de suite sur Europe 1.
Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Votre émission Santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h en compagnie du docteur Jimmy Mohamed. Alors il est temps maintenant de passer à notre séquence Les mots du quotidien. Et aujourd'hui on parle de la rage. Savez-vous comment se transmet cette maladie? Comment l'éviter? Car savez-vous que ça ne se guérit pas malheureusement? Justement Benjamin Lévesque vous a interrogé sur le sujet. On écoute son micro-trottoir.
Il y a quelqu'un qui a la rage, c'est comme Adèle Haenel qui s'en va des Césars.
La rage, c'est assez ancien.
La rage, c'est un virus qui est transmis par les animaux.
La rage, moi j'ai en tête quelque chose qui date depuis très très longtemps et qui était transmis par les animaux en fait, par les chiens ou par les chats.
Encore aujourd'hui, il y en a, c'est beaucoup plus minime.
On se transforme en loup-garou, non? Non, pour moi je vois des tremblements, des choses comme ça.
Est-ce que c'est pas ça où on disait que quand on ramasse des murs sauvages, il faut faire attention parce qu'il y a les renards qui ont pissé dessus et je me demande si c'est pas un truc comme ça. Ça n'a rien à voir avec la rage.
Il me semble qu'il faut quand même réagir assez vite et qu'il faut injecter le vaccin assez rapidement.
Je pense que c'est un vaccin. Hop, une petite piqûre et hop, tout repart.
Je crois avoir en tête qu'il y avait une histoire comme ça d'un petit jeune, il y a quoi, peut-être un an ou deux ans, qui s'est fait mordre dans un pays et il est rentré, il est décédé en fait suite à ça en fait.
Jimmy, alors un point sur la rage aujourd'hui. D'abord, c'est quoi précisément cette maladie?
Alors la rage, c'est une maladie qui touche les mammifères, notamment les chiens, les chats, les renards et les chauves-souris. Elle peut se transmettre à l'homme. Le virus est transmis par la salive d'un animal atteint de la rage, soit lors d'une morsure, soit d'une griffure ou même d'un simple léchage sur une blessure. Le virus ne traverse pas la peau saine. Il est important de savoir que la salive de l'animal atteint contient du virus rabique une semaine avant l'apparition des signes de la maladie.
Alors c'est une maladie qui fait encore des cas par contre en France?
Écoutez, j'ai regardé mon carnet de notes et puis surtout le ministère de la Santé, on peut lire que la France est officiellement indemne de rage depuis 2001. Les rares cas observés chez l'animal dans notre pays concernent d'une part des chauves-souris, mais également des chiens et des chats ou encore des animaux infectés dans les pays où sévit la maladie, puis importés de façon illégale. Aucun cas de rage humaine autochtone, c'est-à-dire transmise par un animal qui ne serait pas importé d'un pays dans lequel sévit la rage, n'a été observée en France depuis 1924,
oui,
en France métropolitaine.
Ouais.
Toutefois, on a eu un cas de rage humaine survenu lors de la morsure d'un homme par une chauve-souris infectée, identifiée en 2008 en Guyane. Et puis, les très rares cas signalés chez l'homme en France concernent des personnes qui ont été mordues à l'étranger où sévit notamment la maladie.
D'accord. Même si c'est rassurant, tout ça, il faut dire que la rage, c'est très très grave. Mieux vaut le savoir si on va un jour dans un pays où il y a plus de risques.
Exactement. La rage est mortelle dans 100% des cas et le décès survient en quelques jours après le début des signes cliniques. En revanche, l'incubation est assez longue, en moyenne entre un mois et un mois et demi, ce qui laisse le temps d'agir lorsque vous avez été mordu. Lorsque vous avez été mordu, à ce moment-là, on met des règles d'hygiène, on nettoie la plaie abondamment à l'eau et au savon, on désinfecte, on consulte un médecin et puis surtout, on va dans un centre antirabique.
D'accord, alors c'est une urgence, ça on l'a compris. Il faut agir vite et heureusement, une vaccination, je crois, post-exposition qui est possible.
Hein. Exactement, cette vaccination post-exposition, elle est décidée par le centre antirabique. Elle consiste en plusieurs injections intramusculaires réparties sur un mois. Elle est bien tolérée, elle est très efficace et elle permet d'éviter la maladie justement au moment où vous êtes en période d'incubation. Avant d'avoir les symptômes, ce vaccin est très efficace, mais c'est le centre qui le détermine et à ce moment-là, vous êtes suivi pendant un petit moment.
Merci beaucoup, Dr Jimmy Mohamed, pour toutes ces précisions.
Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez. Europe 1, Mélanie Gomez.
La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Et pour cette dernière séquence de l'émission, c'est Catherine Blanc qui rentre dans ce studio. Catherine Blanc, notre sexologue et psychanalyste. Bonjour Catherine.
Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy.
Alors aujourd'hui, on va répondre à la question de Samuel. J'ai l'impression qu'on a eu que des questions d'hommes cette semaine. C'est bizarre, parfois c'est comme ça. Habituellement, c'est plus de femmes, mais c'est bien. La parole est libre et vous vous sentez à l'aise dans son rendez-vous. On est content. Je vous lis sa question à Samuel. Donc, nous n'habitons pas encore ensemble avec ma copine. Nous alternons les nuit chez l'un, puis chez l'autre, j'ai remarqué qu'elle ne voulait jamais faire l'amour chez moi. Elle m'a expliqué être mal à l'aise quand elle n'était pas chez elle. Qu'en pensez-vous ? Catherine, allons droit au but. C'est quoi le problème de la copine de Samuel ? Qu'est-ce qui bloque ? Bon, peut-être que c'est dégueulasse chez lui aussi, on ne le sait pas. Hein.
Tout simplement. Merci pour cette émission. Sans rendez-vous, c'est tous les jours.
Alors Catherine.
Non, parce qu'elle ne dormirait pas non plus. Oui. En fait, je crois qu'il y a un besoin de contrôler complètement la situation. Donc la sexualité peut être une source d'inquiétude et suffisante, peut-être parce que c'est une jeune femme. Je ne sais pas quel est l'âge de cette jeune fille.
C'est pas précisé, malheureusement.
Mais peut-être que voilà, il y a un besoin d'être dans la maîtrise de tout, de son corps, de ses affaires, de son lit, de son environnement, de ce qui est derrière les cloisons, voilà, de qui, quoi, comment, pour avoir la tranquillité de cela, selon si chez Samuel il y a les parents dans la pièce d'à côté, selon si...
Remarquez, c'est un peu pour tout le monde, on est tous plus à l'aise de dormir chez soi que de dormir chez, je sais pas, chez des amis, on est toujours mieux chez soi, même si on peut se sentir bien ailleurs, hein, c'est
oui,
ça ?
Oui, on peut avoir le sentiment que... Ça peut être aussi une inquiétude. Je pense à une patiente qui avait l'inquiétude d'être filmée à son insu.
Ah,
quand c'est chez soi, ben, on n'a pas cette inquiétude-là, par exemple. Donc, ça peut être aussi d'être entendu. Donc, voilà, tout
par
dépend.
Par des voisins.
Par des voisins.
Ouais,
et pas de pouvoir maîtriser ce qui est en dehors de cette chambre où se joue une sexualité, avec une idée, évidemment, que la sexualité est potentiellement coupable ou sale, d'où l'inquiétude de le faire dans un cadre qui ne serait pas maîtrisé.
Jimmy ?
Et puis, est-ce que c'est comme au football, on est plus performant à domicile qu'à l'extérieur ou ça n'a aucun rapport avec
la référence
mais c'est vrai, les stats sont là.
Bah, je suis docteur Jimmy Mohamed.
Non, mais
je rappelle que vous êtes médecin. Allez-y.
C'est ça. Je sais pas.
Et amateur de foot. Allez.
Mais non moins un homme. Hein.
Oui, c'est ça.
Alors, je pense que la question de la performance serait peut-être plus masculine que féminine.
C'est vrai, parce que là, on rigole, mais là, on parle finalement même d'avoir des rapports sexuels. Ça ne traduit pas quand même quelque chose de plus profond, un manque de confiance dans la relation, puisque à terme, j'ose espérer qu'ils vont peut-être s'installer peut-être ensemble ou passer plus de temps. Il y a peut-être quand même un manque de confiance.
Moi, j'ai l'impression, encore une fois, j'ai l'impression que c'est un jeune couple là, qui nous pose une question. Et donc, une jeune femme avec une inquiétude, chacun reste de son côté, on s'invite un coup chez l'un, un coup chez l'autre. Elle peut laisser rentrer dans son intérieur que quand elle est dans son intérieur. Et elle a du mal à se projeter dans la liberté d'une sexualité en dehors de sa zone de confort. Donc, je crois qu'effectivement, c'est un manque de confiance avant tout en soi que dans l'autre, mais qui est du coup reporté sur l'autre, parce que bien souvent, nous projetons sur l'autre nos propres inquiétudes quant à nous-mêmes.
Bon, on est là pour répondre aux questions. Donc, la question de Samuel, c'est qu'en pensez-vous, Catherine ? Qu'est-ce qu'il peut faire, Samuel ? Qu'est-ce qu'on peut lui conseiller pour qu'elle soit plus à l'aise ? Bon, ou alors, il va toujours dormir chez elle et au moins, il est sûr qu'il aura un rapport sexuel qu'il souhaite, quoi.
Oui, je crois que dans un premier temps, c'est de respecter. D'abord, on n'est pas obligé à chaque fois qu'on dort ensemble de faire l'amour,
déjà,
d'une part.
Ouais.
Donc, on peut se dire que c'est tout à fait possible que ça ne se fasse que d'un côté et qu'il se passe du coup d'autre part des moments de tendresse et des moments d'échange tout à fait différents puisqu'il n'y aura pas de sexualité. Donc ça, c'est à respecter. Après, chemin faisant, on peut aussi essayer de comprendre
d'évoquer le problème, ouais.
Chez soi peut poser problème.
Est-ce que t'aimes pas mon matelas ? Est-ce que mes draps sont pas assez doux ?
Pour voir ce qui est effectivement susceptible d'être bougé, changé pour finalement lui convenir.
Jimmy ?
Est-ce que Samuel a intérêt à se syndiquer et faire la grève du sexe, justement, pour dire, écoute, bah, puisque c'est comme ça...
Mais décidément, aujourd'hui, vous avez...
J'adore une petite grève...
Comme ça, s'il ne fait plus chez elle, ils seront bien obligés de le faire chez lui, c'est
bah
ça ?
Oui, c'est ça, en disant, bon, bah, voilà, bah, maintenant, on n'a plus le choix.
Eh bien, ça peut se tenter, je crains qu'il n'y ait plus de sexualité du tout. Mais bon, comme
vous voulez-vous... Faut qu'il n'y ait pas de copine du tout,
non ? Dans toute grève, il y a un risque, de toute façon. Pas de paye à la fin du mois, pas de sexe à la fin de la journée.
Ça se peut, ça se peut. Mais en tout cas, ça peut en tout cas faire naître l'humour, ça c'est une bonne chose. Surtout si c'est dit comme vous. Peut-être vous pouvez lui souffler le ton de la grève.
Bon, le mieux c'est peut-être de s'installer ensemble aussi pour régler tout ça. Si cette relation est durable,
c'est ça, et faire son intérieur dans lequel elle sera en tranquillité. Mais après, peut-être qu'elle aura le même, ils rencontreront le même problème à l'hôtel, en vacances, etc., ou chez les beaux-parents. Donc, de toute façon, il y a une difficulté qui mérite d'être un petit peu dévoilée petit à petit. Dans le cadre de la confiance de la relation.
Merci beaucoup Catherine pour tous vos conseils précieux, comme toujours. Voilà, c'est la fin de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine dans Son Rendez-vous. Votre émission Santé Bien-être, c'est tous les jours de 15h à 16h. Mais tout de suite, on retrouve Mathieu Noël et son équipe Sauvage. Bonjour Mathieu.
Bonjour Mélanie. Il est l'homme qui m'a fait hésiter sur mon hétérosexualité. MC Solar, j'étais jeune, j'assistais à un concert et tout à coup, il a enlevé sa chemise. Je garde cette image gravée au plus profond de moi. MC Solar est notre invité cet après-midi.
Merci beaucoup Mathieu, bonne émission, restez sur Europe 1.